VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, Média Dakar, Trésura Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par les élections en Afrique. Au Mozambique, la population se rend aux urnes ce mercredi pour des élections législatives, pour des élections municipales sous haute surveillance après une campagne qui a ravivé les tensions entre le parti au pouvoir, le Frelimo, et son éternel rival, le Renamo, un ex-mouvement rebelle engagé dans des pourparlers de paix avec Maputo. Le scrutin est donc plus qu'un affrontement politique, c'est aussi un test du processus de paix en cours après 3 années de violence entre 2013 et 2016. Le RENAMO, Renouveau National du Mozambique, avait repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise absolue du Frelimo sur le pays depuis son indépendance en 1975. Élection au Cameroun, le ministre camerounais de l'Intérieur, Paul Atanganji, a déclaré mardi à l'AFP que marquer un pénalty, ce n'est pas gagner le match. En référence à cette métaphore sportive employée par l'opposant Maurice Kamto lundi pour clamer sa victoire à la présidentielle de dimanche dernier. Quand bien même vous manquez un pénalty, vous ne gagnez pas forcément le match à la fin, a déclaré M. Atanganji dans un entretien accordé à l'AFP à Yaoundé, et en estimant que la proclamation de sa victoire par Maurice Kamto était un non-événement. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 5 civils ont été tués hier dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, dans la région de Beni, province du Nord Kivu. Les détails avec Edi Sango.
Les miliciens ADF ont pris en embuscade une voiture sur la route nationale 4 entre Beni et la province de l'Ituri. Ils ont tué un chauffeur de taxi et 4 civils et blessé d'autres personnes, selon Noël Mouliwayo, président de la société civile du territoire de Beni. L'armée est arrivée en renfort, mais les rebelles avaient déjà causé la mort des civils, a confirmé le capitaine Mac Azukai, porte-parole de l'armée dans la région. Par ailleurs, des dizaines d'élèves et d'écoliers ont manifesté à Beni pour demander le retour de la paix. Ils ont rencontré 21 députés venus de Kinshasa pour aborder les questions sécuritaires. Les ADF sont accusés des massacres des 700 civils dans la région de Beni depuis le 2 octobre 2014 et de la mort des 15 casques bleus tanzaniens en décembre 2017. Ces groupes de rebelles ougandais musulmans s'est replié dans les années 90 dans l'est de la RDC pour combattre les régimes du président Yoweri Museveni.
Violence en République centrafricaine, la France et le Tchad veulent remobiliser autour de l'initiative africaine de paix en Centrafrique. C'est ce qu'a déclaré mardi à N'Djamena, la ministre française des armées Florence Parly, à l'issue d'un entretien avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Paris voit d'un mauvais œil la présence russe en Centrafrique, où Moscou est notamment impliquée dans des tentatives de médiation entre le gouvernement et les groupes armés centrafricains. En Afrique du Sud, réaction positive des milieux d'affaires après le remplacement du ministre des Finances démissionnaire Nana Nene par l'ancien gouverneur de la Banque centrale Tito Mboweni mardi. M. Nene a donné sa démission hier après sa mise en cause dans une enquête pour corruption. Première victime de poids du combat engagé par le président Cyril Ramaphosa pour mettre fin au scandale dans ce domaine. Le point avec Nani Talani.
Après plusieurs jours d'incertitude et sous forte pression, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dit avoir accepté de se séparer de M. Nene, pourtant considéré comme un de ses proches. Cette démission intervient juste après l'annonce de l'ouverture d'une enquête administrative sur M. Nene, qui avait reconnu la semaine dernière s'être entretenu avec un trio de sulfureux hommes d'affaires proches de l'ex-président Jacob Zuma. Ce témoignage l'a détourné de son important devoir de servir le peuple au moment où nous travaillons précisément à rétablir la confiance du public envers son gouvernement, a justifié le chef de l'État. Le ministre n'a été directement impliqué dans aucun méfait, a précisé M. Ramaphosa, qui s'est engagé depuis son arrivée au pouvoir en février d'éradiquer la corruption et de relancer l'économie du pays. L'opposition s'est réjouie du départ de M. Nene.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Kenya, au moins 51 personnes ont été tuées ce mercredi matin dans un accident d'autres cars dans l'ouest du pays. C'est ce qu'annonce la police. Selon les autorités, l'autocar était parti de Nairobi pour Kakamega, à 300 km au nord-ouest de la capitale, et transportait 52 passagers. La Croix-Rouge locale dit que le toit du véhicule a été totalement arraché, mais on n'a pas d'autres détails sur les circonstances de l'accident. Le Canada et le Québec ont annoncé mardi qu'ils ne soutenaient plus la candidature de Michael Jean à la direction de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dont elle est la secrétaire générale sortante. Et cela au prochain sommet de l'organisation. La Canadienne née en Haïti, ancienne gouverneure générale du Canada et ex-journaliste vedette, est candidate à sa succession lors du prochain sommet de l'OIF, jeudi et vendredi à Erevan en Arménie. Elle sera opposée à Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, soutenue par la France et l'Union africaine. Actualité américaine maintenant, le président Donald Trump a annoncé hier que les préparatifs pour un nouveau sommet avec Kim Jong-un, le leader nord-coréen, ont avancé et que 3 ou 4 lieux sont maintenant envisagés pour tenir ce sommet. Les détails avec Jacques Aristide.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui a rencontré une nouvelle fois dimanche le dirigeant nord-coréen à Pyongyang, a rendu compte hier de cette réunion au président Trump. Il a assuré que la date du second sommet Trump-Kim pourrait être arrêtée dans peu de temps. Il y a encore pas mal de travail à faire, mais nous pouvons maintenant voir un chemin pour atteindre l'objectif final, qui est la dénucléarisation vérifiée de la Corée du Nord, a-t-il estimé, remerciant Kim Jong-un de l'avoir reçu. En juin, les deux dirigeants s'étaient rencontrés à Singapour pour un sommet historique. Une nouvelle entrevue n'est pas très lointaine, a déclaré le président américain, sans préciser les lieux envisagés pour cette rencontre. La Corée du Sud avait annoncé dimanche que le sommet se tiendrait le plus tôt possible. Récemment, Donald Trump a multiplié les éloges envers l'homme fort de Pyongyang. « Je l'aime bien et il m'aime bien », a-t-il encore déclaré mardi.
Par ailleurs, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, va quitter son poste à la fin de l'année. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Washington Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Ça a été une surprise, mais maintenant, en réfléchissant, je crois que c'était inévitable, parce qu'avec l'arrivée de M. Pompeo comme ministre des Affaires étrangères, qui est un homme très fort, agressif, et surtout M. Bolton, ancien ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, qui est maintenant le conseiller pour les affaires de sécurité auprès du président, je crois que Mme Haley n'a plus d'autorité sur la formulation des affaires étrangères. Elle reçoit des ordres. Elle reçoit des ordres. Et pour une femme comme ça, qui était très importante, je crois que Elle en avait assez.
Certains sont d'autant plus surpris qu'elle a adopté une ligne dure sur l'Iran. Elle a également réaffirmé la position du président Trump concernant Israël sur le conflit israélo-palestinien.
Oui, vous avez complètement raison. Mais il y a un sujet de différence entre elle et le président, ça c'est la Russie. Elle veut être très dure avec la Russie sur tout ce que la Russie fait dans l'Ukraine, dans la Syrie, même en Afrique maintenant, dans la République centrafricaine. Mais pour une raison ou une autre, M. Trump veut être très gentil avec M. Poutine. Et je crois qu'elle ne comprend pas pourquoi. Et ça, c'est une différence. Mais en général, je crois que ce qui compte, c'est qu'elle a très peu d'autorité maintenant. On ne demande même pas son avis.
Donc, si je vous comprends bien, elle était beaucoup plus à l'aise lorsque Rex Tillerson était secrétaire d'État.
C'est ça. Rex Tillerson a dit envoyer des messages. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quels sont vos conseils? Et maintenant, c'est fini ça. Elle reçoit des ordres.
Certains analystes également avaient déjà commencé ce matin à évoquer ses ambitions politiques et même une éventuelle candidature à la présidentielle en 2020, mais elle a démenti tout cela. Pour vous, quel est son avenir politique?
Je crois qu'il y a beaucoup de choses devant elle. Elle est très populaire dans son État, Caroline du Sud. Elle était déjà gouverneure là-bas. Peut-être elle peut être sénateur.
Voilà, c'était Herman Cohen ici à Washington au micro d'Abdourahmane Dia. Merci de votre attention.